Bonjour. Aujourd'hui, je vais vous lire les conditions de réalisation de la gnose, de la synthèse des yogas 2, le yoga de la connaissance intégrale, le yoga de l'amour divin, de Sri Aurobindo, traduit de l'anglais par la mère. Tout change lorsque nous passons du mental à la gnose, car le principe central de ce plan est une connaissance inhérente et directe. L'être gnostique, Vijna Na Maya, est caractéristiquement une conscience de vérité, un centre et une circonférence de la vision véridique des choses, un mouvement concentré et un corps subtil concentré de la gnose. Son fonctionnement est le rayonnement et l'accomplissement spontané du pouvoir de vérité dans les choses, selon la loi intérieure de leur vrai moi et de leur nature profonde. Cette vérité des choses qu'il nous faut atteindre avant de pouvoir entrer en la gnose, car c'est dans la vérité que tout existe sur le plan gnostique et c'est d'elle que tout émane, est en premier lieu une vérité d'unité ou d'unicité. D'unicité, je répète. Mais une unité qui engendre la diversité. Une unité qui devient la multiplicité tout en restant toujours une. Une unicité indissoluble. L'état de la gnose, la condition de l'être gnostique, Vijnana Maya, est impossible sans une vaste et intime identification de notre être avec toute l'existence et sans une expansion nouvelle, universelle, une compréhension ou une inclusion universelle, sans vraiment être tout en tout. Le purusha gnostique a normalement conscience qu'il est infini. Normalement conscience aussi de contenir le monde en lui-même, tout en le dépassant. Alors je me permets de répéter parce que c'est vraiment important. Le purusha gnostique a normalement conscience qu'il est infini. Normalement conscience aussi de contenir le monde en lui-même tout en le dépassant. Il n'est pas divisé comme l'être mental, pas normalement lié à une conscience qui se sent contenue dans le monde et un fragment de lui. Il s'ensuit que le premier pas élémentaire pour arriver à l'être de gnose et de se délivrer de l'ego limitateur et emprisonnant, car tant que nous vivons dans l'ego, il est vain d'espérer d'atteindre cette réalité plus haute à cette vaste conscience de soi, cette vraie connaissance de soi. Le moindre retour à la pensée de l'ego, à l'action de l'ego, à la volonté de l'ego, fait basculer la conscience qui sort automatiquement de la vérité, atteinte et retombe dans les faussetés de la nature mentale divisée. Une solide universalité d'être est la base même de cette conscience supérieure, lumineuse, renonçant à toute séparation rigide, mais en prenant soin d'y substituer une certaine indépendance transcendante ou un certain regard surplombant. Nous devons nous sentir un avec toutes choses et tous les êtres, nous identifier à eux, devenir conscients d'eux comme de nous-mêmes, sentir leur être comme le nôtre, accepter leur conscience comme une partie de la nôtre, entrer en contact avec leur énergie aussi intimement qu'avec la nôtre, apprendre à être un seul moi avec tous. Certes, cette unité n'est pas la seule chose nécessaire, mais c'est une première condition. Sans elle, il n'y a pas de gnose. Cette universalité est impossible à réaliser pleinement tant que nous continuons, comme maintenant, à sentir que nous sommes une conscience logée dans un mental individuel, dans une vie et dans un corps individuel. Il faut vraiment que le Purusha sorte du corps physique et même du corps mental et qu'il s'élève jusqu'au corps du Vijnanamaya. Ni le cerveau, ni son lotus mental correspondent, ne peuvent désormais rester le centre de notre pensée. Ni le lotus, ni le cœur correspondant ne peuvent désormais rester le centre et la source de notre être émotif et de nos sensations. Le centre conscient de notre être, de notre pensée, de notre volonté, de notre action et même la force d'origine de nos sensations et de nos émotions s'élèvent en dehors du corps et du mental et prennent librement position au-dessus. Nous n'avons plus la sensation de vivre dans le corps. Nous sommes au-dessus de lui, son seigneur et son possesseur, Ujjvara, et en même temps, nous l'enveloppons d'une conscience plus vaste que celle des sens physiques emprisonnés. Dès lors, nous commençons à comprendre avec une force très concrète, normale, continue, la réalité de ce que les sages entendaient quand ils déclaraient que l'âme portait le corps. Et quand il disait que l'âme n'était pas dans le corps, mais le corps était dans l'âme. C'est au-dessus du corps et non dans le cerveau que se formeront notre idéation et notre volonté. L'action cérébrale deviendra simplement un mouvement de réponse de mécanisme physique au choc de la force de pensée et de la force de volonté qui émane d'en haut. Tout sera déclenché d'en haut. D'en haut se produira tout ce qui, dans la gnose, correspond à notre activité mentale présente. La plupart des conditions du changement gnostique, sinon toutes, peuvent et en fait doivent s'obtenir longtemps avant d'arriver à la gnose. Mais elles le sont tout d'abord imparfaitement dans le mental supérieur, comme par une réflexion, puis plus complètement dans ce que nous pouvons appelez une conscience surmentale entre l'état mental et la gnose. En outre, ce centre au-dessus et ce fonctionnement sont libres. Ils ne sont pas liés à la machine physique et ne dépendent pas d'elle. Ils ne sont pas cramponnés à un sens égoïste étroit. Ils ne sont pas embarrassés dans un corps, pas enfermés dans une individualité séparée qui cherche maladroitement à deviner le monde au dehors ou tâtonne au dedans en quête de son esprit profond. Par cette grande transformation, notre conscience commence à être plus enclose comme dans une boîte génératrice. Elle se diffuse librement et s'étend partout dans sa propre existence. Il y a ou peut y avoir un centre, mais seulement pour la commodité de l'action individuelle. Il n'est pas rigide, ni constitutif, ni séparatif. Désormais, la nature même de nos activités conscientes est universelle. Nos activités sont une avec les activités de l'être universel et vont de l'universalité à une individualisation souple et variable. Ce que nous appelons « nous » est devenu la conscience d'un être infini qui agit toujours universellement, bien qu'il puisse mettre l'accent sur une formation individuelle de ses énergies. Mais c'est un accent différentiel plutôt que séparatif. Et cette formation n'est plus une individualité comme nous la comprenons maintenant. Il n'y a plus de structure limitée, plus de petites personne enfermée dans la formule de son propre mécanisme. Cet état de conscience est si anormal pour notre matière d'être actuel qu'il peut paraître impossible et même un état d'aliénation pour l'homme rationnel qui ne le possède pas. Mais une fois qu'on le possède, il se justifie même à l'intelligence mentale par son calme plus grand, sa liberté, sa lumière, son pouvoir plus grand, par l'efficacité de sa volonté, par la vérité vérifiable de son idéation et de ses sentiments. Car dans cette condition commence déjà, sur les plans supérieurs, car dans cette condition commence déjà, sur les plans supérieurs, du mental libéré et peut donc être partiellement senti et comprise par l'intelligence mentale lorsqu'elle laisse derrière elle les régions mentales, mais on ne la possède parfaitement que dans la gnose supramentale. Dans cet état de conscience, l'infini devient la réalité primordiale, concrète, la seule chose immédiatement et raisonnablement vraie. Il devient impossible de penser ni de percevoir le fini en dehors de notre sens fondamental de l'infini en lequel seul le fini peut vivre, se former, avoir une réalité quelconque ou une durée. Tant que ce mental et ce corps fini sont pour notre conscience le fait premier de notre existence est le fondement de toute notre pensée, de tous nos sentiments et de toute notre volonté. Et tant que les choses finies sont la réalité normale d'où nous nous hissons à l'occasion ou même fréquemment, à l'idée au sens de l'infini, nous sommes encore très loin de la gnose. Sur le plan de la gnose, l'infini est tout à la fois la conscience normale de notre être, son fait premier, sa substance sensible. Pour nous, c'est très concrètement la fondation d'où se forme tout le fini. Et c'est de là, par ses forces incalculables et sans limite, que sont mises en mouvement toute notre pensée, toute notre volonté et toute notre joie. Mais cet infini n'est pas seulement quelque chose qui imprègne tout et qui s'étend partout et en quoi tout se forme et se produit. Derrière cette extension incommensurable, la conscience gnostique perçoit toujours un infini intérieur qui est sans espace. C'est par ce double infini que nous arriverons à l'être essentiel de Satchitananda, moi suprême de notre être et totalité de notre existence cosmique. Une existence illimitée s'ouvre à nous et nous sentons tout d'abord qu'elle est comme une infinitude au-dessus de nous, à laquelle nous tentons de nous élever, comme une infinitude autour de nous en laquelle nous nous efforçons de dissoudre notre existence séparée. Puis, nous nous élevons jusqu'à elle et nous nous élargissons en elle. Nous jaillissons de l'ego dans cette étendue et nous devenons cela à jamais. Quand cette libération est accomplie, son pouvoir peut également prendre de plus en plus possession de notre être inférieur, si telle est notre volonté, jusqu'à ce que même notre activité, nos activités les plus basses et les plus perverties, soit refaçonné en la vérité de Vijnana. Ce sens de l'infini, cette possession par l'infini, telle est la base. C'est seulement après être parvenu là que nous pouvons nous approcher d'un état où opère assez normalement l'idéation, la perception, la sensation, l'identité, la conscience supramentale. Car ce sens de l'infini n'est lui-même qu'un premier fondement. Il en faut bien davantage avant que la conscience puisse devenir dynamiquement gnostique. Car la connaissance supramentale est l'activité d'une lumière suprême et beaucoup d'autres lumières. Beaucoup d'autres niveaux de connaissances plus hauts que le mental humain peuvent ouvrir en nous et recevoir refléter quelques rayons de cette splendeur avant même que nous nous élevions à la gnose. Mais pour posséder pleinement la connaissance supramentale et en être le maître, il faut d'abord entrer en l'être de la lumière suprême et devenir cette lumière. Notre conscience doit se transformer en cette conscience. Son principe et son pouvoir de perception de soi et de tout, par identité, doivent devenir la substance même de notre existence. car nos moyens et nos manières de connaître et d'agir se modèleront nécessairement sur la nature de notre conscience. Et c'est la conscience qui doit radicalement changer si nous voulons être le maître de ce pouvoir de connaissance supérieur au lieu d'être visité par lui de temps à autre. Mais il ne se borne pas à une pensée supérieure ni à l'activité d'une sorte de raison divine. Il reprend tous nos moyens de connaissance actuels, mais en les rendant immensément larges, actifs, efficaces, au lieu d'être aveugles, infructueux et de fermer qu'ils sont maintenant, et les change en une haute et intense activité perceptive du Vijnana. Mais il reprend les activités de nos sens et illumine même leur champ ordinaire, si bien que nous avons une perception vraie des choses, et au sens mental aussi, il donne une perception directe des phénomènes intérieurs autant que des phénomènes extérieurs. Par exemple, le pouvoir de sentir, de recevoir et de percevoir les pensées, les sentiments, les sensations et les réactions nerveuses de l'objet sur lequel il se porte. Le pouvoir de connaissance supramentale se sert aussi bien des sens subtils que des sens physiques et délivre ceux-ci de leur erreur. Il nous donne la connaissance et l'expérience d'autres plans d'existence en dehors du plan matériel auquel notre mentalité ordinaire est attachée avec ignorance, et il élargit le monde pour nous. De même, il transforme les sensations et leur donne leur pleine intensité autant que leur pleine capacité de tenir la charge. Car la pleine intensité est impossible dans notre substance mentale normale. Le pouvoir de contenir et de supporter les vibrations nous est refusé au-delà d'un certain point. Sinon, le mental et le corps se briseraient tous les deux sous le choc ou la tension prolongée. Il reprend également l'élément de connaissance dans nos sentiments et dans nos émotions, car nos sentiments aussi contiennent un pouvoir de connaissance et un pouvoir de réalisation que nous ne reconnaissons pas et ne cultivons pas convenablement. Il les délivre tout à la fois de leurs limitations, de leurs erreurs et de leurs perversions. Car en toute chose, la gnose et la vérité, le droit, la loi suprême, Devanam Adabdinani Vratani. La connaissance est la force ou volonté, toute force consciente et volonté. Sont les deux côtés jumeaux de l'action de conscience. Dans notre mentalité, ils sont divisés. L'idée vient d'abord, puis la volonté arrive en trébuchant derrière ou se révolte contre elle, ou lui sert d'outil imparfait et donne des résultats imparfaits, ou bien la volonté se met en mouvement d'abord avec une idée aveugle ou myope et élabore quelques produits de confusion, puis nous en avons plus tard l'exacte compréhension. En nous, Il n'existe pas d'unité entre ces deux pouvoirs, pas d'entente complète, ou encore, il n'y a pas de correspondance parfaite entre l'initiative et l'exécution. La volonté individuelle non plus n'est pas en harmonie avec la volonté universelle. Elle essaye d'aller plus loin ou ne va pas assez loin ou dévie ou se débat contre elle. Elle ne connaît pas l'époque ni les saisons de la vérité, ni ses degrés, ni ses mesures. Le Vijnana reprend la volonté et commence par la mettre en harmonie avec la vérité de la connaissance supramentale, puis en union avec elle. Dans cette connaissance, l'idée qui joue dans l'individu est une avec l'idée qui joue dans l'univers, parce que l'une et l'autre se réfèrent à la vérité de la connaissance suprême et de la volonté transcendante. Non seulement la gnose reprend notre volonté intelligente et la transforme, mais elle reprend nos souhaits, nos désirs et même ce que nous appelons les désirs inférieurs, instincts, impulsions, poursuites des sens et des sensations et les transforme. Ils cessent d'être des souhaits et des désirs, d'abord parce qu'ils cessent d'être personnels, puis parce qu'ils cessent d'être cette lutte pour saisir ce que nous ne possédons pas, que nous appelons envie ou désir, et lorsqu'ils cessent d'être cette poursuite aveugle, ou semi-aveugle de la mentalité instinctive ou intellectuelle, il se transforme en une activité variée de la volonté de vérité. Or, cette volonté agit avec la connaissance inhérente des mesures exactes de l'action décrétée, et par suite, avec une efficacité inconnue de nos velléités mentales. Par suite aussi, l'action de la volonté du Vijnanamaya ne laisse point de place au péché, car le péché est une erreur de la volonté, c'est un désir et un acte de l'ignorance. Quand un désir cesse complètement, le chagrin et toutes les souffrances intérieures cessent aussi. Le Vijnana reprend son non seulement nos facultés de connaissance et de volonté, mais aussi nos capacités d'affection et d'affection et de jouissance, pardon, et les transforme en un mouvement de l'ananda divin. Car si la connaissance et la force sont les deux côtés ou les pouvoirs jumeaux de l'action de la conscience, la félicité ou l'ananda, bien supérieure à ce que nous appelons plaisir, et la substance même de la conscience est le résultat naturel d'une action conjuguée de la connaissance et de la volonté, de la force et de la conscience de soi. Le plaisir, la douleur, la joie, le chagrin sont, les uns comme les autres, des déformations causées par un trouble d'harmonie entre notre conscience et la force qu'elle applique. Entre notre connaissance et notre volonté, une rupture de leur unité par une descente à un plan inférieur où elles sont limitées, divisés, privés de la plénitude de leur fonctionnement naturel et en conflit avec d'autres forces, d'autres consciences, d'autres connaissances et d'autres volontés. Le Vijnana redresse tout cela par le pouvoir de sa vérité et par un retour complet à l'unité, à l'harmonie, au droit, à la loi suprême. Il reprend toutes nos émotions et les change en des formes variées de l'amour et de la félicité, y compris nos haines, nos répulsions et toutes les causes de nos souffrances. Il découvre ou révèle le sens qu'elles n'avaient pas trouvé, faute duquel elles étaient devenues les perversions qu'elles sont. Il ramène la totalité de notre nature au bien éternel. De même, pour nos perceptions et nos sensations, il révèle toute la félicité qu'elle cherche, mais une félicité dans la vérité et non dans la perversion ni dans les fausses recherches et les fausses inspirations. Il apprend même à nos impulsions inférieures à se saisir du divin et de l'infini dans les apparences après lesquelles elle court. Toutes ces transmutations ne se font pas au niveau de l'être inférieur, mais en s'élevant. Le mental, le vital et le matériel à la pureté inaliénable, à l'intensité naturelle, à l'extase continuelle, unique et pourtant infiniment variée de l'ananda divin. Ainsi, dans toutes ses activités, l'être du Vijnana est l'expression d'un pouvoir de connaissance parfait, d'un pouvoir de volonté parfait, d'un pouvoir de félicité parfait qui ont été haussés à un plan plus haut que le plan mental, vital et corporel. Pénétrant tout, universalisé, libéré de toute personnalité et de toute individualité égoïste, il est l'expression d'un moi supérieur, d'une connaissance supérieure et par conséquent d'une force supérieure et d'une joie d'être supérieure. Dans le Vijnana, tout fonctionne dans la pureté, dans la droiture, dans la vérité de la Prakriti supérieure ou divine. Ces pouvoirs, souvent, peuvent ressembler à ce qu'on appelle des siddhis dans le langage yogique courant, ou à ce que les Européens appellent des pouvoirs occultes, pouvoirs répudiés et redoutés des devots, ou de bien des yogis comme des pièges, des pierres d'achoppement, des diversions de la vraie recherche du divin. Mais ils ont cette réputation et sont dangereux à ce niveau parce que c'est l'ego qui les cherche dans l'être inférieur et d'une façon anormale pour une satisfaction égoïste. Dans le Vijnana, ils ne sont ni occultes ni siddhis. Ils sont l'expression normale de la nature gnostique, sans rien forcer et sans rien cacher. Le Vijnana est le pouvoir de vérité et l'action de vérité de l'être divin en ses identités divines et quand ce pouvoir agit à travers l'individu qui s'est haussé au plan gnostique, il s'accomplit sans perversion, sans faute et sans réaction égoïste, sans se soustraire à la possession du divin. Car sur ce plan, l'individu n'est plus l'ego, mais le jiva libre et domicilié en la nature divine supérieure dont il est une parcelle. Para, Pakritir Jiva Bhutan. Domicilié en la nature du moi suprême et universel qu'il voit jouer à d'innombrables individualités, certes, mais sans le voile de l'ignorance, avec la connaissance de soi en son innombrable unicité et dans la vérité de sa Shakti divine. Dans le Vijnana, nous découvrons la relation juste et l'action juste du Purusha et de la Pakriti, parce que là, ils deviennent un et le divin n'est plus voilé dans la Maya. Tout est son action. Le Jiva ne dit plus « je pense, j'agis, je désire, je sens ». Il ne dit même pas, comme le sadhak qui cherche à parvenir à l'unité sans l'avoir encore atteinte, ainsi qu'il est décrété par toi qui demeure en mon cœur, ainsi j'agis. Car le cœur, le centre de la conscience mentale, n'est plus le centre qui met en mouvement, mais simplement un instrument de transmission béatifique. Au lieu de cela, le sadhak perçoit le divin établi au-dessus, seigneur de tout, adhishtita, autant qu'agissant en lui. Et étant lui-même établi en cet être supérieur, parardhe, paramasyam, paravati. Il peut dire vraiment et hardiment, Dieu lui-même, par sa pakriti, connaît, agit, aime et se réjouit à travers mon individualité et ses symboles, et y accomplit à sa mesure divine l'innombrable lila que l'infini joue à jamais en cet univers qui est lui-même à jamais. Alors je me permets de redire ce qui est établi en cet être supérieur. Il peut se dire vraiment et hardiment Dieu lui-même, par sa pakriti, connaît, agit, aime et se réjouit à travers mon individualité et ses symboles et y accomplit à sa haute mesure divine l'innombrable lila que l'infini joue à jamais en cet univers qui est lui-même à jamais. Shri Aurobindo. Je termine les conditions de la réalisation de la gnose, de la synthèse des yogas 2, le yoga de la connaissance intégrale, le yoga de l'amour divin, traduit de l'anglais par la mère. Je remercie infiniment Shri Aurobindo et Douce Mère pour cette lecture divine. Merci, Shri Aurobindo. Merci, Mère Ganga Lakshmi.